Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Non, non, mais premier degré, on était du coup ce matin à chez Meta pour qui nous ont invités pour une conférence. On espérait potentiellement
avoir l'IAMA 3.
Avoir des annonces comme savoir quand est-ce que l'IAMA 3 allait sortir.
Il y avait un monde où on bouleversait tout le programme de cette émission parce que l'IAMA 3 était annoncé. Ouais. Ça n'a pas été le cas.
Non, voilà. Ça n'a pas été le cas, donc on a maintenu le programme. D'ailleurs, j'en profite, on dit bien l'IAMA, hein, je ne sais pas pourquoi, parfois.
Il y a une personne qui m'a fait la réflexion en mode on dit pas l'IAMA.
Si, on dit l'IAMA.
Mais en fait, si, on dit l'IAMA.
C'est juste que lui s'est dit attends, mais s'ils disent l'IAMA, c'est que c'est écrit L-I-A-M-A.
Non, c'est deux L-A.
Mais non, c'est deux L-A et c'est juste la prononciation espagnole. Voilà.
Donc, on est d'accord que c'est en référence au lama.
Et voilà, exactement. C'est juste.
Comme Ferré, c'est en référence au Ferré. Donc, très animalier tout ça.
Se dit l'IAMA. mais vous pouvez dire ce que vous voulez et personne ne vous en voudra.
Oui, je suis le premier à dire n'importe quoi.
Vous avez pu, après la conférence, discuter directement avec lui ou pas?
Non, en fait, on
était un peu pressé.
On avait quand même
une émission à préparer.
Mais l'invitation est partie, donc ce serait avec plaisir. On espère que.
Ça fait un petit moment qu'on aimerait le recevoir.
C'est
donc,
une conférence spécifiquement sur qu'est-ce que lui voit comme potentielle architecture qui pourrait un jour permettre d'avoir ce genre d'IA qui savent planifier, etc. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais vu pas mal de, entre guillemets, de contre-arguments dans le sens où il n'est pas forcément dans le sens du vent. Quand tu regardes sur aujourd'hui les technos qui sont hype dans le monde de l'IA, c'est plutôt effectivement de l'IA générative, des LLM, etc. Or, lui, il s'inscrit plutôt en contre. Non pas que ce n'est pas utile, la preuve, son laboratoire sort des versions de LLM, mais plutôt que ça a une limite, notamment sur la. Ça a plein d'usages intéressants, mais si vous avez. Peut-être c'est un truc que vous avez ressenti vous-même en les utilisant et que vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. C'est quoi cette limite sur les LLM qui font que parfois ils ont l'air cons pour des trucs si bêtes ou intelligents pour des trucs si complexes? Et bien justement, c'est exactement ce qu'explique Yann dans cette conférence. D'ailleurs, il y en a une version, nous on l'a vu ce matin, mais si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas trop allergique aux slides barbus d'universitaires, et ben vous pouvez aller voir la version qu'il a fait à Stanford, je crois.
Je crois que c'est Harvard.
Harvard, peut-être, je ne sais plus.
Parce que moi je l'ai trouvé sur Harvard.
Ok. Donc c'est une version, une heure de la conférence, je crois, qui est vraiment hyper intéressant, notamment sur pourquoi les LLM sont limités. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est super dur. Enfin, c'est hyper important de comprendre, d'avoir ces exemples et de comprendre exactement pourquoi les LLM sont limités. Parce que parfois, tu scrolles Twitter et tu as l'impression que c'est bon, on va avoir l'intelligence générale dans un an.
Dans deux jours.
comme dirait Elon Musk. Et qu'en fait, lui t'explique quand même par A plus B que non. Non, ça ne va pas arriver, ni l'année prochaine, ni dans, peut-être même pas dans 5 ans. Donc c'est pas non plus Dieu sur Terre, mais j'ai trouvé qu'il avait des arguments assez convaincants. Et j'ai pas encore vu de contre-arguments qui valaient le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir cette conférence où non seulement il vous expliquera pourquoi intrinsèquement il y aura toujours une limite aux modèles de langage tels qu'ils sont conçus actuellement, et quelle est lui sa vision pour résoudre ces problèmes et envisager l'IA du futur qui a à la fois la capacité de suivre des objectifs et aussi de suivre des règles strictes de comportement, contrairement à actuellement on fait du fine tuning, mais où en fait on peut les jailbreaker et on et à tout moment une IA l'exemple qu'il donnait, c'est quoi, à tout moment une IA peut vous demander de quitter votre femme. Il y a une anecdote qui s'est vraiment produit et donc c'était intéressant. Vous pouvez aller voir ça. Il faut être bien réveillé le matin quand même, mais
ouais, moi je l'ai pas encore vu du coup la version longue. Ouais. Mais moi ce qui m'a pas surpris, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il a l'air de peser dans les choix de Meta d'un point de vue IA de façon très très forte. Je savais que c'est un personnage très important de l'IA chez Meta, mais je pensais pas à ce point-là. Je pense que s'il a envie de dire un truc, il le dit. Et comme tu me disais, on ressent les éléments de langage de Yann LeCun dans ce que raconte parfois, tu me disais, Mark Zuckerberg. Donc, a priori, genre, il fait vraiment Enfin, il semble être vraiment faire la pluie et le beau temps un peu chez Meta.
Alors, en vrai, je sais pas dans quel sens ça va.
On n'en sait rien.
Mais je sais pas pourquoi, là, d'intuition, je me dis pas que Mark Zuckerberg a une vision sur l'open source et l'IA. Ça se trouve, c'est fou. Ça se trouve, ouais. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Que j'ai plutôt l'impression que lui, c'est plutôt sur l'aspect business qu'il aurait des idées très, très claires. Et là, je l'ai vu sortir dans, je ne sais plus dans quel podcast c'était, je crois que c'était chez, comment il s'appelle,
Mark Zuckerberg ou...
Zuckerberg,
ouais.
un podcast très connu qu'il a fait récemment, Lex Fridman, je crois.
Fridman, ouais.
Je crois que c'est chez Lex Fridman. Et où il déployait une vision hyper limpide et super de pourquoi c'est important que les modèles de fondation soient open source.
Ce que nous a raconté Yann,
exactement ce qui était
en détail ce matin,
avec les mêmes mots, etc. Ce que disait Yann.
On l'appelle Yann comme si c'était notre pote. J'adore.
J'ai pas pourquoi. J'ai eu du mal à croire que ça soit comme ça, ce soit venu tout seul que cette vision se vienne directement du Zuckerberg. C'est pure rumeur et théorie faite maison. Donc voilà, source moi.
Et en tout cas, merci à Meta.
Exactement,
pour l'invitation. C'était l'invitation
très cool
ce matin. On change du tout au tout de sujet, on va passer d'IA et de Meta et de toutes ces choses-là et de Minecraft à le stockage dans le cloud. Parce que, pourquoi pas. Ah, j'ai perdu mon texte. Bah super. Vous utilisez certainement un service de stockage dans le cloud, que ce soit Google Drive, iCloud, peut-être même OneDrive. En fait, ils se sont quasiment imposés à nous, inclus avec d'autres services ou lorsqu'on achète un iPhone, par exemple. On les utilise parfois même sans s'en rendre compte. Ils sont littéralement configurés à notre place.
Et on nous demande d'acheter putain de 5 euros de cloud sur l'iPhone.
Exactement. Problème, si les versions gratuites sont très pratiques, elles ne sont évidemment pas illimitées et souscrire à un abonnement récurrent peut vite revenir très, très cher. Aujourd'hui, on a décidé de faire un tour de 6 solutions pour réduire ou supprimer ce coût récurrent que sont les abonnements à des drives tels que Google Drive ou iCloud.
Stocker toutes nos photos, tous nos films. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça prend vite de la place.
Et tout ça en essayant d'être malin. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais on va vous en présenter plusieurs et vous allez dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Est-ce que vous trouvez ça intelligent ou pas du tout, moi j'ai essayé de collecter voilà, des petites solutions sympas à droite à gauche.
Il y a quand même pas mal de trucs que les gens ne connaissent pas. Et
oui.
En général, on te dit comment tu gères ton cloud. En général, c'est soit iCloud, soit un Google Drive. Et en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi les petits services ou les tricks que tu peux utiliser pour payer tellement moins cher pour avoir exactement le même service, voire mieux. Et donc, c'était important qu'on fasse cette vidéo un jour, quand même.
Voilà, et je précise que je vais évidemment citer plein de marques et plein de services parce que c'est l'objet de la chronique, mais qu'aucune ne nous a payé.
N'hésitez pas, cependant.
N'hésitez pas, ce sera vraiment, comme dirait McFay et Carlito, virement. Et une chose est sûre, les services de cloud sont ultra pernicieux. Déjà, parce qu'on l'a dit, ils sont installés par défaut et deviennent payants à partir d'un seuil. Souvent, c'est entre 5 et 15 gigas. Parce que, évidemment, leur paiement est récurrent tous les mois, un peu comme les systèmes de SVOD, Netflix, etc. Mais selon moi, c'est pire que Netflix ou toute autre plateforme de SVOD, Amazon Prime, Disney+, etc. Pourquoi ? Je prends un exemple. Si un jour, vous décidez de tout plaquer votre vie, et vous partez au loin, dans un endroit peut-être où il n'y a pas Internet, ou peut-être vous n'avez même pas envie de prendre votre ordinateur, etc. Bref, vous vous en foutez de vos données numériques. Vous pouvez très simplement couper Netflix, parce que vous ne l'utilisez plus. Par contre, couper un abonnement Drive que vous avez pris, vu qu'il y a vos données dessus, et que potentiellement vous y tenez, en fait, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe. On a peur de perdre ces données. Je ne dis pas que c'est infaisable, en fait. Mais on est un peu prisonnier. Et en fait, il y a vraiment cette étape où, à partir du moment où tu commences à payer un service de Drive, t'es un peu emprisonné. Enfin, t'es même carrément emprisonné dans leur service. Et un service qui, certes, sur le papier, n'est pas très cher, au vu de ce que ça nous apporte, mais qui, conservé 2, 3, 4, 5 ans, peut vite devenir très cher. Et c'est un engrenage un peu comme... J'ai noté un peu comme la clope, mais pourquoi j'ai écrit ça quoi.
Non, mais dans le sens où tu te dis, ça va pas te coûter cher. Voilà. Mais en fait, tu fais le calcul sur 10 ans. Et en fait, bah...
Et en fait, ça coûte super cher. Ouais. Et tout ça, évidemment, c'est pas gratuit. Je vous ai un peu compilé les prix des différents drives les plus connus. Bien souvent, ça coûte environ 10 euros par mois ou 100 euros par an pour 1 à 2 Tera de stockage. Google Drive, c'est 10 euros par mois pour 2 Tera. iCloud Plus, c'est de 10 euros par mois pour 2 Tera, c'est la même chose. OneDrive, c'est un tout petit peu moins cher. C'est un peu moins cher, c'est 5,75 euros par mois. Mais en fait, c'est inclus dans Microsoft 365. Ils t'incluent ça dans des packages incroyables. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est que pour tous nos exemples et pour essayer de réduire ce coût, voire de le supprimer au maximum, on garde un peu cet exemple d'avoir un drive, d'avoir un stockage de 1 à 2 Tera. Juste pour essayer de garder un peu cette échelle tout le long de la chronique et surtout que bah, ça correspond à un usage normal de la plupart des gens. Première solution, très simple, trouver les mêmes services que les GAFAM, mais en un peu moins cher, voire en carrément moins cher, et si possible en Europe, pour conserver nos données sur le territoire européen. Alors pour ça, je vous en ai sélectionné deux. À chaque fois, je ne pourrais pas citer tous les services, évidemment. Mais le premier, c'est K-Drive, donc c'est celui de la suite Infomaniac. Il propose 2 Tera pour 5 euros par mois, si je me trompe pas. Et donc, c'est quand même deux fois moins que, bah, par exemple, un Google Drive ou un iCloud. Mmh. Donc, on divise par deux. Non, c'est pas ça qui avait marqué ?
Si,
ok. Une deuxième possibilité, et peut-être que tu l'as pas vu dire celle-là, savais-tu que Shadow...
Mais oui.
Bah oui.
Et oui.
C'est le nouveau Ubique, pour ceux qui connaissent. Shadow a un drive. Et pareil, les 2 Tera coûtent 5 euros par mois. Et pareil... c'est, si je dis pas de bêtises, stocké en France. De toute façon, c'est les serveurs d'OVH. Et donc, honnêtement, c'est des services plutôt sûrs. Infomaniac et Shadow ont plutôt... Infomaniac, c'est un acteur depuis très longtemps dans le cloud. Et Shadow, c'est OVH qui est derrière. Alors même si...
On sait... Non, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on sait que même si la boîte faisait faillite,
ouais.
A priori, les clients ne seront pas totalement laissés dans la panade, oui. Puisque c'est déjà arrivé. C'est limite pas mal.
Et moi, j'ai un deuxième exemple. J'étais sur Ubique à l'époque. Ubique, c'était le service d'OVH qui a fermé maintenant et qui est devenu Shadow Drive. Et j'avais des données sur Ubique. Ils ont fermé le service. Honnêtement, c'est un peu chiant, mais en fait, ils te laissent du temps pour rapatrier toutes tes données, etc. Donc, ça se fait même si un jour Shadow Drive ou K-Drive doit fermer. Je ne crois pas à la perte du jour au lendemain. C'est des acteurs suffisamment gros et de confiance pour que ça fonctionne. Bref.
C'est pas méga upload, quoi.
C'est pas. Très bon exemple. C'est pas méga upload et c'est quand même deux fois moins cher qu'un Google ou qu'un Apple en équivalent. Donc, bon, c'est une première solution qui fait quand même diviser la facture par deux. Deuxième alternative. C'est ces mêmes services cloud, mais cette fois-ci avec un abonnement à vie. En fait, le concept, c'est qu'au lieu de payer tous les mois, tu payes une fois une somme assez chère. Souvent, c'est au moins 200 euros, voire 300, voire 400, voire 500. On va rentrer un peu dans le détail pour accéder à vie à un espace drive sur Internet. Alors, il en existe plusieurs et je vais vous expliquer ce qui est cool et ce qui n'est pas cool dans ce service. Il en existe plusieurs, notamment un des plus connus qui s'appelle PCloud. Ça coûte 400 euros pour 2 Tera. Donc c'est quand même un billet à l'entrée, faut quand même mettre 400 euros, mais vous pouvez avoir 2 Tera pour 400 euros. Il y en a un autre qui a complètement cassé les prix ces derniers mois, qui s'appelle Internext, et qui coûte seulement 200 euros pour 2 Tera. À chaque fois, oui, si, c'est ça, 200 euros pour 2 Tera. Honnêtement, on se dit, c'est incroyable. Mais attention! Parce que tout n'est pas rose dans ce business.
Oui, la douille. Parce que là, en gros, il faut faire un peu le calcul. Si tu sais que tu es du genre à avoir des besoins qui fluctuent énormément, tu ne seras pas intéressé par ça. Mais si tu sais d'avance que tu as beaucoup, beaucoup de photos, c'est assez...
Déjà, il faut faire le calcul en combien de temps c'est amorti. Donc là, c'est très simple. Vous prenez les 10 euros de Google ou d'Apple tous les mois et vous divisez le prix par 10. Donc souvent c'est aux alentours de 2 ans et en vrai c'est tout à fait ok, mais attention, c'est qu'il y a des risques à ça. Le premier risque, c'est que si la boîte ferme, bah, vous avez payé 200 ou 400 ou 500 euros pour rien. Le service aura pris fin, vous aurez payé en une fois et donc c'est terminé. Faut espérer quand même récupérer ces données. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous payez en une fois...
Un contrat te lie à une boîte à partir du moment où il y a une boîte.
Voilà. En fait. Et donc il y a une histoire de confiance qui est encore plus importante que
si t'es au moins.
Que si t'es au moins, et surtout que les GAFAM, on peut se dire que bon, on a un peu le temps de voir venir. Là, le problème, c'est que PayCloud et Internext, je pense que parmi vous dans le chat, peu de gens en avaient entendu parler. Et donc, il y a vraiment une histoire de confiance.
Puis c'est le paiement à vie, mais c'est pas ta vie, c'est leur vie, quoi.
Ouais. Exactement. Donc ça ne... Vraiment, ça dépend de la vie de la boîte.
Ça va pas.
Et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller voir Trustpilot, donc les avis de Internext. Je vous le fais, je vous le donne en mille. Ouais. Si tu descends, c'est pire, c'est catastrophique. Genre, tu lis cette page et tu dis, je ne vais jamais prendre un abonnement chez Internext. Franchement, il y a même pas forcément besoin de lire les détails, mais c'est vraiment catastrophique. Je suis allé sur Reddit également pour savoir qu'est-ce qu'en pensait.
Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, si c'est un achat one shot, c'est des gros montants en fait.
C'est des gros montants. En fait, tu peux perdre vraiment des centaines d'euros comme ça. Je suis allé voir sur Reddit, il y en a qui les accusent de créer des faux comptes Reddit pour dire du bien du service Internext. Je dis pas que c'est une boîte frauduleuse. Peut-être que dans quelques années, elle sera très bien. Mais honnêtement, moi actuellement. Jamais je ne mets mes données sur ce système. Et juste comme
pour potentiellement compléter, c'est vrai que Trustpilot, c'est un peu de la merde aussi.
Évidemment.
En tant que tel. Et que typiquement, dans le chat, on a des gens qui nous disent j'ai mon compte PayCloud depuis 2007.
Donc, là, je parle de l'Internex. Hein.
Oui, c'est ça. Mais en fait, elle est même apparemment. Donc, c'est toujours dur de savoir si c'est des attaques.
Complètement.
Aussi,
Et en fait, c'est une histoire de confiance. C'est libre à vous, c'est votre libre arbitre. Moi, par exemple, je ne mettrai pas. À l'heure actuelle, mes données chez Internext, parce que je me dis, j'ai pas assez confiance. Faut vraiment y aller en mode, j'ai confiance dans la boîte. Moi, mon conseil, c'est, avant de le faire, renseignez-vous, demandez à Google à qui appartient la société. Honnêtement, c'est trouvable. Par exemple, je sais que PayCloud, c'est une société suisse, mais qu'ils ont délégué leur développement en Bulgarie, que ça existe depuis pas mal de temps quand même. C'est sans doute un des acteurs les plus connus dans le cloud à vie, PayCloud. Les reproches qu'il y a sur Trustpilot, ils sont plus sur le côté UX, qui est un peu galère.
Ah oui.
Genre, c'est pas Google ou Apple, apparemment. Mais par exemple, PayCloud, moi, j'ai personnellement... envisager l'option, mais j'ai jamais franchi le pas. J'ai quand même quelque chose qui me dit « Ah, c'est quand même beaucoup d'argent d'un coup. Est-ce que je mets toute cette confiance dans cette boîte ?» Honnêtement, c'est à vous de voir. C'est
alors
en votre âme et conscience.
Il y a d'autres options, en fait.
Alors,
c'est pas la seule possibilité.
C'est pas la seule possibilité. Alors, juste deux risques pour finir. Il y a clairement un risque de scam exit, c'est-à-dire que tu fais la boîte et puis un jour, tu fais « Ciao !» Tu fermes la boîte et tu prends l'argent. Et en fait, il y a un problème un peu inhérent au business model. C'est-à-dire que une fois, entre guillemets, que tous les clients ont payé, comment tu fais pour maintenir les coûts d'infrastructure qui,
il y a un petit côté Ponzi où t'as besoin de nouveaux clients tout le temps.
Il y a un petit côté Ponzi. Donc, c'est bien de l'avoir en tête. Il y a des services complètement legit. D'ailleurs, il y a un service aussi qui est pas mal revenu qui s'appelle Ice Drive. Mais en fait, quand on regarde le prix, tout de suite, c'est un peu plus connecté au prix de la réalité. C'est 500 euros pour un seul tera. Donc là, tu commences à avoir une rentabilité au bout d'un peu plus de 4 ans. Bon, c'est un peu plus cher, quoi. Comme tu disais, pourquoi s'attarder sur cette deuxième solution alors qu'il peut y en avoir plein d'autres, notamment la troisième possibilité. C'est dans le cas où votre drive, il vous sert essentiellement de backup, mais qu'en fait, vous ne passez pas votre journée à consulter les documents ou les photos qu'il y a dans votre drive. En fait, c'est un peu au cas où, pour avoir une sauvegarde de vos données. Dans ce cas, je vous en conjure, n'utilisez pas de drive parce que c'est stupide et beaucoup trop cher d'utiliser un drive classique juste pour du backup. Pour ça, vous pouvez utiliser un stockage qui s'appelle le stockage froid. C'est un stockage où vous pouvez uploader des données à tout moment. Vous envoyez vos fichiers, vous envoyez vos nouvelles photos à tout moment. C'est complètement conçu pour ça. Par contre, vous ne pouvez pas les consulter ou les récupérer super rapidement. Ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir un peu de friction parce que, en fait, c'est des stockages froids donc, qui sont conçus pour que vous n'y accédez pas à la donnée en permanence. Et cette petite contrainte, en fait, vous permet de vous faire économiser beaucoup d'argent. Alors, à ma connaissance, et on viendra sur une autre solution qui utilise aussi le stockage froid, mais là, je vais vous parler de deux produits grand public qui utilisent le stockage froid. À ma connaissance, le précurseur de ce marché, c'est Backblaze, qui est arrivé il y a très longtemps sur le marché. Et en fait, le concept est très simple. Vous pouvez stocker l'entièreté de votre ordinateur. Il n'y a aucune limite de taille de données, enfin de quantité de données, pardon. L'entièreté de votre ordinateur ou l'entièreté de votre smartphone sans limite, pour 9 dollars par mois. Et en plus, potentiellement, vous pouvez ajouter des utilisateurs moyennant, je crois que c'est quelques dollars de plus par mois, mais par exemple, vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour vos parents, votre grand-mère, etc. Et au final, alors ça coûte quand même 9 dollars par mois, donc c'est le même prix que par exemple un iCloud ou un Google Drive de 2 Tera. Mais là, si vous avez énormément de données, honnêtement, ça peut être une très bonne solution. Et surtout, c'est super simple à mettre en place. C'est-à-dire que vous téléchargez un logiciel sur votre ordinateur, il tourne en tâche de fond et en permanence, il envoie, il sauvegarde les données. Ça devient, une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez plus à y penser. Et le jour où votre appart crame et que vous n'avez plus rien, et ben en fait, vous pouvez aller sur le site de BlackBase et récupérer toutes vos données. Ou alors, ils peuvent vous envoyer un disque dur.
D'accord.
Ils ont un service où vraiment, par exemple...
Comment un disque dur ?
Ils t'envoient un disque dur par la poste. Alors, ça prend quelques jours. Faut
c'est
pas
génial, parce que pour celui qui a une bibliothèque de 40 Tera de films, par exemple...
C'est un peu chiant à sauvegarder. Il t'envoie un disque dur.
C'est génial.
Et il me semble, tu vois, c'est noté dessus, là. Et il me semble, il doit y avoir un petit surcoût quand même. Mais bon, en vrai, quand t'as perdu toutes tes données, tu t'en fous. Ouais. Mais je suis même pas sûr du surcoût.
189 dollars.
Ah oui, quand même. il y a un surcoût. voilà.
Non, attends. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux commander le disque pour 189 dollars. Par contre, si tu le renvoies, tu es remboursé.
Donc en gros. Voilà, incroyable. J'avais même pas regardé.
En fait, c'est juste une caution.
Ouais.
Mais c'est génial.
Franchement, c'est incroyable. Ouais. Et surtout, j'ai des amis qui l'ont testé pour le coup, enfin qui l'utilisent, et vraiment, ça marche très bien. Enfin, il n'y a pas besoin d'être dans l'informatique. Vraiment, tu installes le logiciel, ça fonctionne. Backblaze, pardon, c'est américain, mais il existe des concurrents en Europe. Notamment, je peux citer celui d'Infomaniac qui s'appelle Swiss Backup. Donc, c'est pas comme K-Drive, hein, c'est vraiment un stockage froid également. Le seul truc, c'est que eux, c'est pas illimité. Tu choisis ta taille de stockage. Mais en fonction de tes besoins, ça peut potentiellement mieux t'aller, surtout que c'est en Europe, et que ça peut être moins cher. Notamment si c'est 1 ou 2 Tera. En fait, à partir de 2 Tera, ça commence à être beaucoup plus cher. Mais si c'est 1 ou 2 Tera, c'est tout à fait compétitif. C'est moins de 10 euros par mois.
Pour ce cas d'usage-là, où t'as pas besoin d'avoir accès à ta donnée rapidement et tout ça, il y a l'ADN aussi.
Il y a l'ADN. Alors, tu vois, je l'avais pas mis parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu expérimental. Quoi.
Ouais, c'est plus expérimental. Mais en vrai, je pense que, tu vois, je t'écoutais parler, je me disais, putain, ça pourrait être une boîte en vrai. Parce que quelqu'un qui me dit, je stocke sur de l'ADN à vie, j'y crois.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, en termes
et en
de.
Fait, et puis ça,
au pire, on te l'envoie par la poste.
Ouais, au pire, on t'envoie le tube.
Et ce qui est incroyable, on en a déjà parlé, c'est qu'en plus. Il y a une capacité d'auto-réplication où tu peux répliquer tes données des centaines de fois.
Il n'y a pas besoin de...
C'est compris dans l'ADN, si je puis dire ainsi.
Pour le coup, c'est vraiment pas cher à stocker.
2 milliards offerts.
C'était la solution bonus supplémentaire. Utilisez votre ADN. Mais faites attention parce que manipuler l'ADN est illégal. Et donc ça, c'était la troisième solution. Utilisez un stockage froid auquel vous n'accéderez pas en permanence via un système grand public. Donc une offre commerciale comme Swiss Backup ou Backblaze. La quatrième solution, c'est un peu la même solution, mais pas tout à fait. En fait, c'est utile particulièrement si le stockage froid, comme on vient de l'évoquer, ne vous convient pas totalement. Je m'explique. Au lieu d'utiliser les drives des GAFAM, dont on parle depuis le début, vous pouvez utiliser leur service de stockage cloud de ces mêmes GAFAM, donc c'est les mêmes entreprises, mais qui sont normalement destinés aux professionnels. Tu dois très bien connaître ça, Tiffany. De base, on appelle ça un S3. C'est un peu rentré dans... C'est parce que Amazon a appelé ça un S3.
C'était un produit d'Amazon, mais c'est,
et
devenu,
sauf qu'aujourd'hui,
c'est devenu un standard.
C'est comme le frigo. On appelle ça un frigo. Tout le monde appelle ça un S3 parce que Amazon appelle ça un S3 depuis des années et que c'est le premier sur le marché, enfin que Amazon AWS. Mais en tout cas, le nom est resté. Si vous tapez S3 sur Google, vous tromperez complètement. Et en fait, j'ai appris, je ne le savais pas d'ailleurs, que c'est ce qu'a utilisé Dropbox pendant des années. Pendant des années, derrière Dropbox, il y avait un S3. Alors, c'est plus le cas depuis plusieurs années maintenant, mais c'est une archive qui stipule que derrière Dropbox, il stocke sur AWS. Et donc, si Dropbox le fait, pourquoi ne pas le faire de votre côté? Et en fait, ce qui est intéressant à voir dans ces services, c'est que vous allez avoir accès à une granularité de stockage entre du stockage chaud, donc c'est-à-dire du stockage cher, mais auquel vous pouvez accéder en permanence, à du stockage complètement froid, auquel vous ne pouvez pas accéder du tout en permanence. En fait, il y a différents...
Il y a tiède, moyennement tiède.
Exactement. Et ben, on peut regarder, par exemple, du côté de Google. Tous les grands fournisseurs de cloud ont cette offre. On va regarder le tableau de Google parce que ça nous permet d'avoir les chiffres bien comme il faut. La doc d'AWS à chaque fois, c'est pas possible. Moi, je veux bien les montrer, mais en fait, on comprend rien.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Et en fait, à chaque fois, tu vas faire un compromis entre combien de minutes ou combien d'heures il va falloir attendre pour obtenir ta donnée.
Et par exemple, si vous prenez tout à gauche, c'est ce qui est le plus chaud. Et par exemple, c'est pas du tout compétitif. On est à peu près à $23 par mois. Je sais pas si t'as montré ce qui se passe en Europe, parce que tu peux choisir où est-ce que c'est stocké aussi. Mais on va dire que le stockage complètement à chaud, c'est $23 par mois. Donc c'est pour 1 téra. Donc c'est vraiment très cher. Ouais. Mais par contre, plus tu descends dans les colonnes de droite, plus ça devient du stockage tiède, voire froid. Et là, ça commence à être intéressant. On atteint, sur les colonnes de gauche, $6 par mois ou $2,5 par mois.
Du tera. C'est pas mal.
Du tera. Donc franchement, c'est pas mal et ça dépend de la classe de stockage. Je vous conseille de vous renseigner, mais en gros, ils conseillent que, par exemple, si vous y accédez une fois par mois, c'est tel type de stockage. Si vous y accédez une fois tous les trimestres, c'est tel type de stockage. Si c'est une fois par an, etc. Bref, il y a des règles, mais vous pouvez créer votre propre cloud, sur mesure grâce aux offres professionnelles de stockage. Évidemment, vous trouvez la même chose chez AWS, chez Azure, etc. Et il y a aussi une offre qui est un peu plus lisible d'un point de vue commercial chez Backblaze, toujours. Et c'est $6 du tera. Mais pareil, par contre, là, c'est du stockage chaud. Oui, c'est ça. Là, c'est complètement du stockage chaud. C'est $6 du tera chez Backblaze. Il n'y a pas de fin à cette phrase. Par contre, il a quand même des petits inconvénients à cette méthode. Ce n'est pas complètement gagné. Déjà, je commence à fatiguer. Je vais me remettre dedans. Première chose, honnêtement, il faut s'y connaître un peu pour mettre en place.
Moi, j'ai tenté de me souscrire à Amazon Glacier, par exemple.
Voilà, donc c'est le stockage froid de
c'est
Amazon.
Le parcours du combattant.
C'est vrai.
Il faut 46 clics.
Il faut c'est pas trop cliquer.
Se confronter à l'IAM et tout ce genre de choses.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Bref.
C'est vraiment pas du tout.
Si vous êtes un DevOps friendly. Ou des choses comme ça, vous allez le faire sans problème.
Voilà. Et en fait, soit vous connaissez très bien, vous êtes un DevOps, etc., ou vous travaillez dans les technologies cloud et tout va bien. Soit ça peut être aussi l'occasion d'apprendre, mais il faut inclure le temps d'apprentissage parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous pouvez pas donner ça à faire à vos parents, clairement. Ça n'est pas possible. Et deuxième warning, deuxième point d'attention, il y a quand même quelques frais cachés. Souvent, tu payes également, en plus du prix au tera, je veux dire, tu payes de la bande passante. Et donc, il faut voir, est-ce que ça convient à votre usage ou pas. Là, il faut aller dans le détail. Et également, tu payes le fait de pouvoir récupérer de la donnée. Donc, c'est beaucoup moins cher que le stockage en lui-même, mais c'est quelques centimes où, en fait, quand tu fais la multiplication au tera, si tu as des gros mouvements de données, en fait, ça peut être la fausse bonne idée parce que ça va coûter beaucoup plus cher qu'un autre service. Donc, attention notamment à ces deux frais, la bande passante et le fait de pouvoir télécharger de la donnée qui est déjà stockée sur votre solution cloud. Tout ça, ce que je vous ai dit, ça paraît en effet un petit peu compliqué, mais en fait, il existe un outil qui permet de nous grandement nous simplifier la tâche. En fait, c'est même plutôt une commande qui s'appelle AirClone. Alors moi, je connaissais AirSync, que honnêtement, j'ai beaucoup utilisé. AirSync, c'est une commande qui permet de synchroniser l'état d'un dossier à deux endroits différents. Et en fait, il y a son pendant qui s'appelle AirClone. Et je veux bien que tu nous en parles, Michael, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas utilisé, mais toi, oui.
En effet. Et en fait, parce que j'allais même le mettre dans une autre catégorie. C'est-à-dire qu'il existe une dernière méthode pour faire votre stockage cloud, qui est la plus pirate d'entre tous. Donc là, je vais vous décrire un truc que nous, on a mis en place, potentiellement, à une époque, on ne l'a plus. Donc Google, vous fâchez pas. Mais en gros, ça enfreint totalement les conditions d'utilisation de certains sites bien connus. Donc voilà, ce n'est pas notre faute si vous répliquez ces bêtises. Ça combine plusieurs briques. Et vous allez voir, c'est vraiment assez filou, assez malin. Le premier service dont on va avoir besoin, il s'appelle AirClone. Donc, comme tu le disais, c'est un outil assez magique, open source, qui est une sorte de glue universel entre tous les services cloud et votre machine locale. Donc imaginez s'il y avait un standard sur lequel tout le monde s'était mis d'accord entre un, que ce soit du Google Drive, que ce soit du S3, que ce soit du...
ce serait beau.
que ce soit du SMB même pour un serveur qui serait en local ou des vieux protocoles de ce genre ou que ce soit Google Drive. Bon, si tous ces gens s'étaient mis d'accord pour faire un protocole, on est d'accord, ce serait beau. Ça n'est pas le cas.
Incroyable.
Spoiler, ça n'est pas le cas. Mais ce qu'on a à la place, c'est un magnifique projet qui s'appelle AirClone, qui est la glue qui s'est fait chier à créer toutes les interfaces, à interpréter toutes les API de tous ces services et à créer une sorte de standard universel autour de chacune de ces lignes que vous voyez. Et qu'il a combiné avec un système de montage de disques à distance et de backup. Je m'explique. Vous pouvez très facilement, sur votre ordinateur en local, monter votre Dropbox perso. Ou alors monter un Google Drive. Ou alors monter un serveur Backblaze. Ou alors monter votre NAS qui est à côté. Tout ça via un unique point d'entrée qui est AirClone. Vous n'avez pas à chaque fois à installer l'appli dédiée, vous pluguez à l'interface particulière. Ça vous permet comme ça d'avoir un fichier de configuration qui vous permet comme ça de vous connecter à n'importe lequel de ces serveurs de stockage. Et par-dessus ça, vous allez débloquer des fonctionnalités assez incroyables. Par exemple, si vous voulez faire en sorte que tout votre dossier Google Drive soit chiffré, avec un chiffrement de bout en bout qui soit... Enfin, non, pas de bout en bout, ça n'a pas de sens. Avec un chiffrement et un mot de passe secret que seul vous connaissez, c'est possible. C'est vraiment juste un paramètre à changer dans le fichier de configuration et automatiquement, sur votre ordinateur, quand vous allez double-cliquer sur votre Google Drive, de manière transparente, tous vos fichiers seront déchiffrés en temps réel. Si vous voulez faire en sorte d'avoir de la redondance, donc par exemple que votre bureau Windows soit copié automatiquement sur un Dropbox, mais aussi sur votre NAS, que ça arrive à telle fréquence et que vous gardiez une sorte de cache en local pour faire en sorte que les fichiers les plus utilisés de votre bibliothèque de films, par exemple, eux, ils soient en local, mais les autres, ils soient sur un drive. Vous voyez le potentiel, il y a vraiment un contrôle super fin sur... Quels serveurs de stockage sont là? Est-ce qu'on fait de la réplication? À quelle fréquence est-ce qu'on met à jour? Est-ce qu'on copie des backups? Et à quel point on va utiliser l'API? Parce que parfois, ça passe par des API de Google ou des choses comme ça. Ça vous donne vraiment tout ce contrôle-là au sein d'une même appli unifiée. Déjà, le concept est cool. Ouais. Et ça va être la première brique pour faire notre système frauduleux. La brique suivante, c'est de trouver un service qui propose du stockage chaud, justement, illimité. Vous dites, madame...
C'est pas gagné. Ça n'existe pas.
En fait, ça existe. Et un des exemples, c'est la version entreprise de Google. Donc Google Workspace a une version entreprise qui doit coûter dans les 10 ou... Je crois que c'est 15 euros par mois par utilisateur. Donc imaginez, vous avez une boîte avec 10 personnes et vous voulez utiliser ça pour un stockage illimité. Vous allez avoir besoin de sortir 15 fois 10, 150 balles par mois de votre poche pour payer ce truc. On est d'accord, ça pique un petit peu.
Ah, ça fait cher.
Ça fait quand même un peu cher. Alors, quelle est la solution? À votre avis, t'as une idée, tu finis?
Non. Tu m'as dit que vous l'avez fait, ça?
On l'a testé pendant une certaine période, on vous expliquera pourquoi on ne le fait plus. Mais oui, on l'a testé, ça fonctionne.
Non, je ne vois pas ce que vous avez fait.
En tout cas, l'arnaque fonctionne. En gros... Plutôt que de prendre 10 comptes Google, vous allez en prendre un seul. Okay. Donc vous créez un compte Google. Après, vous allez prendre un serveur, un VPS par exemple, ou un endroit où vous pouvez héberger une appli. Vous allez ensuite utiliser une application open source, un front-end type Google Drive de gestionnaire de fichiers. En fait, il en existe plusieurs. Le plus connu, c'est Nextcloud. Globalement, c'est une alternative à Google Drive que vous pouvez installer sur à peu près n'importe quel serveur gratuitement.
Cloud.
Exactement. Donc pour l'instant, vous avez un compte Google qui a du stockage illimité et un serveur qui vous coûte quelques euros par mois potentiellement où là, vous n'avez pas de stockage, genre 50 gigas de stockage, tu vois, ou 20 gigas de stockage en général sur des VPS, mais où pour le coup, vous avez un système d'utilisateurs illimité. On connecte les deux, à savoir, on monte avec AirClone le dossier Google Drive sur le VPS, et bam, tu te retrouves avec un truc qui te coûte genre en tout 17 balles par mois, avec utilisateur illimité et stockage illimité. Et tu peux faire en sorte que tout ça soit chiffré typiquement sur le côté Google.
Pour que Google ne voit rien passer.
Voilà, exactement. Au cas où, par exemple, tu voudrais stocker des films, enfin bon, bref, des trucs comme ça.
Est-ce que c'est si illégal que ça dit ?
Je pense que... Non, je pense que c'est pas illégal. Ouais. Je pense que c'est absolument pas prévu par les conditions d'utilisation de Google.
C'est plutôt ça, je pense.
Mais
et en fait, ça marche. On me dit que l'offre n'existe plus.
Alors, en gros, je sais qu'il y a une douille, c'est qu'il faut trouver des comptes qui soient... qui précède une date.
Ah oui, donc c'est ça, fait, les nouveaux comptes ne marchent pas.
Si tu as créé ton compte à un moment précis, tu as cet abonnement illimité. Et donc, moi, je me souviens, le jeu, c'était trop. Tu pouvais acheter des comptes Google illimités.
Il y a un business noir. De... Oh là là.
Exactement. Mais pour la version quand même cool à la fin et qui peut intéresser vraiment les gens, c'est de ne pas utiliser derrière un Google Drive, mais d'utiliser... des services de stockage peu chers où vous payez au Tera, type Backblaze, parce que tu as parlé de Backblaze en stockage froid, ils ont aussi du stockage chaud.
Ouais. Et c'est le truc assez
de la exactement. Et nous, en gros, on a pivoté vers ça. En tout cas, moi, j'ai pivoté vers ça. Un système où j'ai un Backblaze qui gère le stockage, notamment de films, etc. Où là, tu payes au Tera et où ça te coûte vraiment pas très cher.
Ouais.
Et toute la partie, ce que tu payes un peu dans Google Drive, iCloud et tout, donc la partie front-end, interface, utilisateur, eh ben, la douille, c'est d'utiliser justement un système open source que tu dois mettre en place toi-même et gérer toi-même. Mais du coup, t'es un peu le meilleur des deux mondes, en gros. Mmh. T'as les bénéfices d'un Google Drive, mais avec le prix d'un Backblaze. Et ça, c'est banger. Voilà.
Ça. Est-ce que tu veux que je fasse mes autres solutions que j'avais prévues
Vas-y, après on verra. Comment tout ça serait
on verra au montage. Tout ça nécessite un peu de bidouille. Et parfois, pourquoi se compliquer autant la vie quand on peut mettre en place un NAS tout simplement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de coût récurrent. Il faut juste acheter le NAS et les disques durs. Un NAS, je le rappelle, c'est un stockage en réseau que vous connecté à votre box et vous pouvez y accéder depuis chez vous et également depuis Internet et partout où vous voulez si vous donnez les bonnes autorisations à vos NAS. Bref, c'est complètement une très bonne solution pour pallier à des stockages cloud.
Et moi, je conseille Synology. Franchement, honnêtement, vous ne faites pas avoir...
QNAP et Synology.
Alors, peut-être qu'ils ont fait des mises à jour depuis, mais en fait... t'économises un petit peu en étant sur QNAP, c'est un peu le l'Android du NAS, on va dire. Mais ouais, cette comparaison
wow.
À 10 ans d'âge. Non, mais je vais changer, je vais me faire défoncer. Non, ok, c'est quoi une autre métaphore de comparaison de chip ?
Tout le monde est d'accord sur Synology, ils conseillent vraiment.
Non, n'utilisez pas QNAP, honnêtement, ça vaut le coup juste de mettre un tout petit peu plus d'argent pour avoir Synology, où l'OS est beaucoup plus mature, où tous les services juste fonctionnent bien, c'est génial. Vous avez Docker, vous pouvez vous installer même des services en local, un VPN. C'est vraiment sympa.
Et si vous avez quand même envie d'un peu plus bidouiller que juste acheter un NAS, fabriquez votre NAS vous-même. C'est tout à fait possible. Vous pouvez acheter des cartes électroniques qui sont faites pour les NAS, et notamment il y en a une qui est prévue pour accueillir des disques NVMe, donc c'est des disques SSD ultra rapides. Donc en plus vous aurez un NAS ultra performant et pour pas très cher, parce que ça coûte moins cher qu'un NAS Synology. Ça doit être dans les entre 100 et 150 dollars sans les NVMe évidemment.
Du coup tu payes le hardware, à savoir le moins
et là
le moins possible pour un Tera.
Tu ne payes même pas le plastique parce que il y en a pas. Non, c'est vraiment juste la carte électronique et franchement ça fonctionne très bien. Il faut juste parvenir à en trouver parce que c'est pas des choses qui sont fabriquées à très très grande échelle, donc faut trouver la bonne boutique.
Par contre, s'il y a un incendie, vous êtes niqué. Voilà,
voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est potentiellement une des solutions les plus économiques et des plus simples d'acheter un NAS, pas forcément la carte électronique. Vous pouvez également en fabriquer un avec un Raspberry Pi. On fera peut-être une vidéo dédiée sur quoi faire avec un NAS et quoi faire avec son Raspberry Pi. Et si jamais vous cherchez une distribution Linux pour votre NAS que vous venez de fabriquer vous-même à l'aide de la carte électronique dont j'ai oublié la référence et qui est à coucher dehors. Il y a la distribution qui s'appelle Open Media Vault pour mettre en place son NAS qui est la référence
aussi que je
la plus connue. Oui, il y en a évidemment.
Unraid aussi, où c'est, pour le coup, elle est payante, mais elle est sympa aussi.
Il y en a pas mal. Et, pardon, tu as dit
Unraid.
Ah, ok, oui, ouais. Red comme le...
Oui,
j'ai la ref.
Comme Red.
comme Red. Bon, forcément, ça nécessite de bidouiller un peu. Attention, tu l'as dit, à ne pas mettre vos nœuds dans le même panier. Le mieux, c'est d'avoir potentiellement soit votre NAS qui n'est pas chez vous et qui est dans un autre lieu, si c'est quelque chose que vous servez pour backup, soit vous en avez un chez vous et un autre à distance. Mais en effet, si ça crame, peut toujours y avoir un souci parce que c'est pas dans un data center et c'est un peu moins sécurisé.
Deux ou trois duplicata.
Et heureusement, un data center, ça ne crame jamais.
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 Moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu un data center tomber en direct devant mes yeux. C'est faux.
Et tu travaillais où déjà? Je ne me souviens plus.
Non, mais en plus, sachez que, vas-y, petit aparté, j'ai travaillé chez OVH, évidemment, mais je ne travaillais plus chez OVH quand le data center a cramé, parce que je crois que je travaillais déjà ici. En revanche, j'ai travaillé j'ai vraiment assisté à un jour où il y a quelques années auparavant que le data center d'OVH à Strasbourg crame, il y avait une panne gigantesque à Strasbourg où le data center a été coupé. C'est un jour où il y a un tiers du web français qui est tombé parce qu'en plus du data center à Strasbourg qui est tombé, ça veut dire qu'il ne fonctionnait plus. Il y a un lien fibre optique entre Roubaix et Paris qui était mort. Et du coup, en fait... Moi, je suis arrivé le matin à OVH, il n'y avait plus Internet. Donc, c'est-à-dire que pour résoudre...
Mais genre pas juste plus Internet dans ta
non,
pièce.
Non, même au siège d'OVH, il n'y avait plus Internet. C'était un jour qui restera dans les mémoires.
Genre les catastrophes qui s'alignent.
Et en fait, bon, il y a eu une rupture d'électricité. Je raconte tout. Il y a une rupture d'électricité ce jour-là au data center de Strasbourg. Ah oui. Il se trouve que normalement, il y a des groupes électrogènes qui prennent le relais.
Je vois un GIFU dans le chat.
GIFU. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment... Ça date de 2017, je crois. 2018. Les groupes électrogènes ne se sont pas lancés, parce qu'il y a un problème sur les groupes électrogènes, ce qui, normalement, prend le relais. Et du coup, en fait, pour faire le tampon entre l'alimentation électrique qui se coupe et les groupes électrogènes qui prennent le relais, mais qui mettent un bon 30 secondes, une minute à démarrer, c'est vraiment... Ça met un peu de temps. Il y a des batteries au plomb à côté de chaque baie de serveur, en fait. Il y a des batteries au plomb pour tenir le temps qu'il faut pour que le serveur ne se coupe pas. Et bien, en fait, vu que les groupes électrogènes ne se sont pas lancés, tous les serveurs ont tenu 8 minutes sur ces batteries au plomb. Les batteries au plomb ont fondu. J'ai des potes à moi qui sont allés sur place, évidemment. C'était un carnage. Il a fallu remplacer un nombre de pièces immense. Il y avait un pont aérien qui s'est créé entre Paris et Roubaix le jour même pour que des pièces de rechange puissent être remplacées et tout. Et ça a mis des jours à repartir. C'était un beau jour. Et moi, je servais à rien parce que je faisais de la R&D chez OVH. Donc moi, en termes de réparation, j'étais là en mode et j'ai apporté des sandwichs. c'était bon. Voilà.
Mais tu t'en souviens, moi.
Mais je m'en souviens. Allez, on finit cette chronique rapidement. La dernière solution, en fait, c'est plutôt une astuce dédiée aux photos. Mais je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, le plus souvent, les données les plus importantes en termes de taille, mais aussi en termes de valeur affective qu'on a, souvent, ce sont les photos. Et c'est ce dont on craint le plus de perdre. Sachez que si vous êtes abonné à Amazon Prime, c'est pas une pub, moi je l'utilise pas. Mais si vous êtes abonné à Amazon Prime, en fait, vous avez Amazon Photos qui est inclus dans Amazon Prime et c'est en illimité. Donc vous pouvez mettre toutes vos photos en illimité sur Amazon Prime, sur Amazon Photos, si vous avez Amazon Prime. Ça marche pas pour les vidéos.
Ok.
Attention. Mais c'est en illimité, comme Google Photos le faisait à une époque, mais le faisait plus.
Et compressé pas mal.
Là, je crois que c'est pas compressé.
Ok.
À vérifier.
Bon.
J'ai un petit doute. Dingue. Mais il y a toujours cette astuce. Après, il y a toujours le problème de si vous voulez résilier Prime, c'est un peu compliqué, etc.
Didier dans le chat, la vidéo en JPEG.
La vidéo
en séquence d'images.
Si tu veux, mais c'est seulement si tu le souhaites, je peux te faire un top 3 des scénarios de stockage que je trouve intelligents à mettre en place.
Allons-y.
Le premier, c'est de potentiellement avoir deux NAS dans deux endroits différents. Et c'est celui qui vous coûtera le moins cher en revenus, enfin en, coûts récurrents au Terra et en coûts par mois, parce que c'est vraiment deux achats, deux investissements, et après vous pouvez l'amortir sur pas mal de temps. Si vous avez qu'un NAS, vous pouvez éventuellement avoir un NAS quelque part, et par exemple tous les mois, backup l'intégralité du NAS sur un disque dur.
Ah oui.
Par exemple, que vous mettez chez vos parents. Okay. Deuxième solution, un NAS et un stockage froid. Un peu le meilleur des deux mondes. Comme ça, c'est ce qui vous coûte le moins cher au mois. Mais vous, comme ça, pareil, vous backupez votre NAS sur un stockage froid, mais dans un data center, et vous prenez la solution qui vous arrange. Et enfin, si vous voulez vraiment pas installer de NAS, ou si vous n'avez pas envie, ou bref, plein de raisons. Vous pouvez utiliser peut-être un service cloud gratuit de 5 ou 15 gigas pour vraiment vos documents importants. Et éventuellement, Amazon Photo si vous avez Amazon Prime. Et derrière, un stockage froid pour backup l'intégralité de votre vie, même si vous ne pourrez pas y accéder immédiatement. C'est un peu mes trois scénarios que j'ai construits avec tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Comme dit le chat, backuper, c'est douter.
Mais il y a une dernière solution, si je puis me permettre, dont on a déjà parlé. C'est les gens qui ont fait un drive sur YouTube.
Ah oui. Sur YouTube.
Oui, oui. Alors j'ai hésité à en parler, ça, mais je me suis dit, on a déjà parlé.
C'est pour le troll. Non, mais là, c'était une chronique sérieuse, là. On donnait des vrais conseils.
Oui. Non, par contre, c'est des vrais conseils.
Voilà. Et en fait, alors que les gens qui.
Oui,
encodent,
sur YouTube.
Voilà, ça, c'est pas.
Mais en fait, alors le dernier conseil que j'aurais à donner et qu'il faudrait que je m'applique à moi, c'est en fait il faut s'y mettre. Faut une fois faire la config, sauter le pas, c'est très chiant à faire, mais en fait une fois que c'est lancé, ça roule tout seul quoi. Voilà, c'était tonton Mathieu.
Particulièrement pour The Cloud, je trouve justement c'est une des limites pour moi au NAS, c'est que t'en as jamais vraiment fini. Genre
c'est
tu vas
vrai.
Toujours déménager un jour.
C'est vrai.
C'est pas un dossier que tu peux placer dans un coin en mode ça c'est fait.
Mais le stockage froid qui se fait tout seul en arrière-plan sur votre ordi, honnêtement,
ça c'est pas mal.
C'est vrai. Ouais. En termes de charge mentale, c'est quasiment zéro.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause, mais juste avant, je fais un petit hijack. J'ai absolument prévenu personne, mais je m'apprête à faire une offre d'emploi en direct.
Wow.
Vous êtes absolument pas au courant, personne au courant, c'est ça qui est drôle. non, je vais préciser, je ne sais pas exactement encore quelle forme ça peut prendre, ça va prendre, et c'est justement, j'en profite pour le faire dans Underscore, où vous n'êtes pas nombreux. Je cherche un profil plutôt junior, qui soit assez chaud en IA génératif. Donc je sais qu'il y en a ici, évidemment. Que ce soit du texte, que vous soyez très branché sur le prompting, sur les derniers modèles, que ce soit en IA générative côté Stable Diffusion, que ce soit en Stable Diffusion vidéo, que ce soit avec de l'API privée ou des modèles locaux, que ce soit sur de la génération d'audio, bref. De manière générale, si vous êtes assez affûté sur les sorties récentes dans toute l'IA générative, pas forcément comme un chercheur ou nécessairement dans le développement, mais simplement aussi que vous aimez mettre les mains dans le cambouis, eh bien, dans ce cas-là, vous m'intéressez. Et je suis chaud qu'on discute. Ça peut être, je ne sais pas, en ce moment, ce n'est pas la saison des stages ou des alternances.
Si, je reçois des DM.
OK. Donc, ça peut être du stage, ça peut être de l'alternance, ça peut être du free, si vous êtes un jeune freelance qui vous lancez là-dedans. Je ne suis pas sûr que ce métier existe vraiment, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça tout de suite. Mais...
C'est un peu ce qui s'appelait les prompt engineers.
Bah ouais, c'est ça, mais en fait, c'est...
En plus, quoi.
Plus, ouais.
C'est...
Plus que prompt engineer, je pense.
Je pense que ce métier n'existe pas encore.
AI engineer.
Exactement. Donc,
AI engineer.
Si vous voulez venir chez nous aider à développer des trucs marrants autour de tout ça, shootez un mail à. Je donne quel mail ?
Je crois qu'on avait un mail équipe à une époque.
Ouais, je vais pas me prouver. Est-ce que ça t'arrange pas si je le mets sur un score ? Non, c'est chiant.
Je crois qu'on avait un email team, non ?
Je crois. OK. Envoyez un mail à team@micorp.studio. team@micorp.studio.
Si et attendez, peut-être demain matin, histoire de setup le mail, s'il n'existe pas encore.
Dans tous les cas, on reçoit tout.
Donc, ah, OK. Ouais.
Et du coup, si on peut envoyer le mail dans le chat et me l'épingler, ce serait trop bien. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs que vous avez faits et des exemples ou des trucs comme ça. Et on en discute. Voilà. Non,
pas T-I-M.
Il est con, pardon. T-E-A-M@micorp.studio, je suis mort.
Non, mais à Kenny.